Donc, on va reprendre notre étude de la deuxième épître de Pierre, et puis simplement se souvenir qu'on avait fait déjà le premier chapitre, et puis le but de cette épître, donc c'est certainement la dernière lettre que Pierre a écrit peu de temps avant sa fin, hein, il est certainement mort martyr. Et puis il voulait encore avertir l'Église d'un danger présent dans l'Église, danger non de la persécution, parce que la persécution il l'avait déjà vécu, c'était déjà quelque chose de qui était arrivé pour l'Église primitive, mais avertir d'un danger supplémentaire, celui des faux docteurs et des faux prophètes. Et c'est vrai que c'est une épître qui est vraiment le but central, c'est ça, hein, c'est de dénoncer les faux docteurs. Et puis donc, on avait vu le premier chapitre qui nous parlait comment est-ce qu'on pouvait grandir dans notre connaissance en Jésus-Christ, que cette fameuse liste, hein, où on doit joindre la foi à la vertu la science la tempérance la patience la piété l'amour fraternel et l'amour fraternel, la charité. Ensuite, Pierre va développer dans ce premier chapitre, appuyer quelque part l'autorité de la parole qu'il est en train d'enseigner à l'Église au travers de ce que le Seigneur Jésus-Christ lui avait témoigné. Et puis d'appuyer aussi quelque part un peu presque scientifiquement, hein, comment est-ce qu'on peut arriver et avoir cette assurance qu'on est en face bien de la connaissance véritable. Donc c'est ce qu'on avait vu un peu la dernière fois, qu'on n'était pas en face d'un enseignement lié à un joli petit conte, une belle histoire romantique. Mais que l'apôtre ainsi que Jean avaient été témoins oculaires directs de notre Seigneur, hein, comme ayant vu sa majesté de nos yeux propres. Ça, c'est donc le verset 16. « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos yeux propres. » Donc voilà, il était témoin direct et il a pu entendre une voix, hein, cette voix qui était certainement lorsque il y a eu la transfiguration du Christ sur la montagne qui était, on peut s'imaginer l'Hermon, hein, parce que c'était, il n'y a pas le nom qui nous est donné, mais c'était une montagne qui était élevée. Ils ont entendu cette parole directe de Dieu. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et verset 18, « Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Et ensuite, il va appuyer dans la suite, dans la fin du premier chapitre, il va appuyer en fait l'autorité des Écritures. Et puis, c'est un peu ce qu'on va voir. Parce que dans ce passage, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais bon, peut-être quand on est jeune chrétien, mais quelle est l'autorité de la Bible? Comment on peut être sûr que la Bible est une autorité pour nous, qu'on n'est pas dans une tradition d'église ou que sais-je, hein? Mais on voit qu'en fait, ici, l'apôtre Pierre donne vraiment un très bon enseignement pour sceller quelque part l'autorité des Écritures. Donc c'est un peu ce que nous allons voir ce soir. Alors on peut lire les versets 19 à 21.
Au chapitre 2 ?
Au chapitre 1er.
Ah. Il faut lire ?
Oui, volontiers.
Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
Merci. Alors voilà, ici on est dans un passage vraiment qui vient à appuyer l'autorité des Écritures, et puis on va le voir un petit peu en détail, parce que peut-être ça frappe pas au premier regard, mais si on s'arrête un moment et on analyse un peu le texte là que nous venons de lire, ben vous verrez que c'est vraiment un passage qui est riche et qui nous assure de l'autorité des Saintes Écritures. Au début là, et nous tenons pour d'autant plus certaine, donc verset 19, la parole prophétique à laquelle vous faites bien.
Mais pardon, mais moi je suis perdu, c'est pas le chapitre 1.
2 Pierre 1. Alors je sais pas si. Ah, mais t'es un Pierre.
Ah, ça c'est la première.
Pardon. Alors 2 Pierre 1, okay. Verset 19.
Oui, d'accord.
2 Pierre 1, 19. Hein. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ici, la parole prophétique, bon, elle peut bien sûr faire référence à cette parole que Pierre et Jean ont entendue sur la montagne, qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection ». Mais la parole prophétique peut aussi simplement faire référence à toutes les Écritures dans leur ensemble. Hein. On verra pourquoi on peut faire cette interprétation par la suite. Donc, il y a vraiment ici un contraste entre les philosophies humaines et la parole prophétique de Dieu. Toutes les Écritures, en fait, comme on le verra dans 2 Timothée 3,16, alors peut-être on peut juste lire, là, ça c'est un passage qui est bien connu. Souvent, on vient appuyer l'autorité des Écritures au travers de ce 2 Timothée 3,16. Est-ce que, quand on va le lire, ça vous allez tout de suite dire, ah oui, ça j'ai déjà entendu. 2 Timothée 3,16.
Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est le 16. Il faut continuer. Mais...
Pour instruire, corriger, pour instruire. Hein? Ouais.
Au 16.
Ouais, c'est bon. Merci. Toute écriture, mais écoutez simplement ceux qui n'ont pas trouvé peut-être. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Hein? Vous avez déjà entendu ce verset? Hein? On a déjà entendu des enseignements hein, qui prouvent, on est ici en fait face à un verset vraiment central pour appuyer l'autorité des Écritures de la Bible. Hein. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
C'est pas toujours évident suivant ce qu'on vit ou suivant face à qui on est confronté.
Alors, c'est ce qu'on va voir, c'est qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre les Écritures. Hein. Et puis, on sait que la parole humaine est source d'erreur, alors que la parole de Dieu est infaillible. Et il y a même un terme, c'est un terme théologique, entre guillemets, il est utilisé que pour qu'un rapport avec les Écritures, hein. C'est l'inhérence. Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme hein? L'inhérence des Écritures. Hein? C'est-à-dire que les Écritures sont entièrement justes et vraies, sans faille, sans erreur, sans lacune, sans mensonge, sans tromperie. Hein? L'inhérence des Écritures. On peut en avoir la certitude. Nous, on y croit. Hein? Bien sûr que si vous venez à discuter avec un intellectuel, il va dire « Mais bon, bah, prouvez qu'elles sont sans faute. Moi, je peux te trouver des erreurs là-dedans. » Mais nous croyons que la parole de Dieu est sans erreur, entièrement juste et vraie, sans faille, sans lacune, sans mensonge, sans tromperie. Hein? hein, l'inerrance des Écritures de notre Dieu. Et donc, c'est bien ici une parole prophétique qui brille dans un lieu obscur. Et ce lieu, ben, c'est celui du monde dans lequel on se trouve actuellement, car la lumière de Dieu n'y réside pas encore. Mais bientôt, le jour viendra apparaître, et c'est pourquoi nous devons déjà y prêter attention. Donc, si je reviens à 2 Pierre ici, ensuite au verset 20, qui nous donne de comprendre que cette parole prophétique, ce n'est pas seulement une parole qui a été donnée à Jésus sur la montagne de la Transfiguration. Hein. Le verset 20 nous ouvre un petit peu peut-être la réflexion. « Sachant d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Hein. » Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Alors, on peut voir au travers de ce verset qu'en fait, l'Écriture dans son ensemble est vue comme une prophétie. Et puis la prophétie, ce qu'il faut comprendre, parce que c'est vrai que quand on parle de prophétie, on pense tout de suite à prophète, on pense à des choses à venir. Hein, voilà, une prophétie, c'est vrai qu'il y a cette notion-là de quelque chose qui nous annonce le futur dans la prophétie. Mais dans la pensée biblique, la prophétie, elle s'arrête pas seulement à des choses à venir, mais elle peut parler en fait simplement d'inspiration divine dans un but d'enseignement. La prophétie, ça veut dire que c'est une parole inspirée de Dieu qui a pour but d'enseigner. On n'a pas beaucoup cette notion. Hein? Et puis si on n'a pas cette notion de la prophétie, où c'est vrai qu'on a souvent entendu des enseignements sur la prophétie, qui sont justes, hein? Parce qu'en effet, l'Esprit de Dieu peut amener des prophéties encore aujourd'hui. Hein? Moi, j'y crois. Je crois que Dieu nous parle encore aujourd'hui. Mais si on n'a pas cette autre notion que la prophétie, ce n'est pas simplement une parole qui peut nous annoncer quelque chose à venir, mais simplement un enseignement qui est inspiré de la part de Dieu, une parole qui est inspirée de la part de Dieu pour nous reprendre, pour nous conduire dans la vérité, hein, on va peut-être passer un peu à côté de cette fin du premier chapitre. Hein. Et puis, on voit que pour pouvoir comprendre une parole inspirée, hein, au lieu de prophétie, on pourrait peut-être traduire comme ça, une parole inspirée, que nous faut-il ? Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune parole inspirée de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ici, pour... Mais après, on pourra ouvrir le débat. Hein. Ici, pour... la traduction d'une interprétation particulière, on pourrait faire un peu autrement, parce que le terme grec, c'est le terme ici grec, interprétation particulière, c'est idios. Hein, en grec, idios, qui a donné en français idiot. Le mot idiot, en fait, vient du grec idios. Et idios en grec veut dire quoi? Quelque chose qui appartient à soi-même, qui est sa propre propriété. Hein. Donc, une interprétation particulière, c'est en fait comprendre la Bible par son propre raisonnement. Mm-hmm. Un raisonnement, en fait, humain. Hein. Ça met l'accent, en fait, qu'en effet, si on veut comprendre la prophétie de son ensemble, l'enseignement de la parole de Dieu dans son ensemble, on ne peut pas faire une interprétation qui nous est propre. Mais on a besoin, en fait, de l'œuvre du Saint-Esprit pour que notre intelligence soit renouvelée et puis qu'on puisse discerner ce que le Seigneur veut nous enseigner. Parce que si l'homme... Et puis ça, c'est vraiment, par exemple, un point faible dans la théologie réformée. Dans la théologie réformée, on met complètement de côté l'inspiration des Écritures. Et puis on met complètement de côté le fait qu'on a besoin d'être inspiré par le Saint-Esprit pour pouvoir la comprendre. Hein, il suffit de faire une bonne démarche intellectuelle, d'avoir aujourd'hui, c'est plus les licences, hein, c'est le bachelor, le master, le doctorat et compagnie, les papiers qui prouvent que tu as un cerveau qui est bien rempli, ben voilà, c'est bon, tu vas comprendre les écritures et puis tu peux à ton tour devenir professeur ou bien pasteur, enseignant, tout ce que tu veux, mais tu es officialisé là-dedans et on met complètement de côté l'interprétation des écritures au travers du Saint-Esprit. Alors on voit bien qu'au travers de ce verset ici, en fait, c'est des idiots. Hein, c'est le grec lui-même qui le dit. On ne peut pas faire une interprétation particulière, on ne peut pas faire une interprétation propre de la parole de Dieu, parce qu'on est des idiots autrement. Hein, on fait quelque chose qui nous est propre à nous, alors qu'on a besoin de la révélation du Saint-Esprit pour comprendre le sens profond des Écritures. L'homme livré à lui-même n'y comprendra rien. Hein, il peut construire toute une belle suite de doctrines, mais en fait, il sera jamais inspiré par Dieu. Il a besoin vraiment que son raisonnement soit renouvelé par la puissance du Saint-Esprit. Et puis, ça nous donne de comprendre aussi que quelque part, on est tous en chemin par rapport à ça. On est des enfants, on a encore aujourd'hui besoin d'apprendre. On a encore besoin, et c'est ce qui est magnifique, parce que tout à coup, vous sentez qu'il y a quelque chose que le Seigneur dépose sur votre cœur par rapport à un passage biblique ou à un autre. Puis tout d'un coup, la parole, elle redevient vivante, même après 40 ans de foi. Hein, tout d'un coup, il y a quelque chose. Ah oui. Ou bien parce que vous entendez un frère ou une sœur partager quelque chose par rapport aux Écritures, tout à coup, vous crochez par rapport à ce qui est dit. Parce que presque avant même que la personne, elle en donne l'interprétation, vous l'avez déjà sur le cœur. Ça vous est déjà arrivé, ça? Hein? Y a comme s'il y a une connexion avec le Saint-Esprit. Parce que tout à coup, vous vous dites, ah mais oui, mais ce passage, ah mais oui, maintenant je le comprends avec plus de profondeur. Et puis, ça réjouit nos cœurs de voir que la parole de Dieu, elle est vivante, encore aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas un truc poussiéreux. Mais c'est vraiment le Seigneur désire encore se révéler à ses enfants. Alors voilà. Je finis peut-être simplement donc cette fin de premier chapitre, hein, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, il n'y a aucune prophétie dans la Bible qui a été quelque chose d'idiot, entre guillemets, hein, dans le sens grec, quelque chose de propre à l'homme, mais c'est toujours parce qu'ils ont été poussés par le Saint-Esprit. On voit, hein, là, il y a vraiment l'œuvre du Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part du Seigneur. C'est là-dessus qu'on peut aussi, sur ce passage, comme sur le passage que nous venons de lire de 2 Timothée 3,16, on peut affirmer la pleine autorité des Écritures et que nous, en tant que croyants, ben, ces deux passages, quelque part, ils doivent nous suffire. Si on veut commencer à discourir sur l'autorité des Écritures, alors on risque à un moment donné de se perdre. Moi, je pense que simplement ces deux passages bibliques, dans 2 Timothée 3,16 et puis cette fin aussi du premier chapitre de 2 Pierre, doit être suffisante pour nous pour dire je reconnais pleinement l'autorité des Écritures, je n'ai pas besoin d'une autre démonstration. Je sais que j'ai besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans ma vie pour pouvoir les comprendre, que ce n'est pas mon grand raisonnement intellectuel qui va m'amener à une révélation supérieure, quoi.
Et ça, on peut le voir dans nos expériences personnelles. Parce que quand tu lis là, ici, hein, il n'est pas une interprétation personnelle. Et souvent, dès qu'on commence à faire des interprétations personnelles, on se fourvoie. Et on n'arrive pas à faire ce qu'on vient de lire dans Timothée, qui est marqué, toute l'écriture est inspirée de Dieu, est-il pour enseigner, convaincre, pour corriger? Si on reste uniquement sur l'interprétation personnelle, on loupe ce passage, parce qu'on est à côté des plaques. Et souvent, Dieu, dans sa patience, dans son amour, par son esprit, il nous reprend. C'est pour ça qu'on lit corriger et instruire. Parce qu'il nous reprend, parce qu'avec nos idées à nous, on part, on y va, nos idées humaines, on se dit, tiens, je prends un passage que Pierre Plouzouan en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est marqué, tout ce que vous faites, à un tel, faites-le comme si vous le faites pour moi. Mmh. On peut l'interpréter à notre manière, on se dit, bon, on va aider tout le monde, n'importe qui vient vers nous, on fait les bons cœurs, on ouvre notre porte-monnaie, on ouvre notre cœur, on fait tout ça. Mais quand on réfléchit réellement à la parole de Dieu, et qu'on voit que Dieu nous corrige ou nous enseigne, il nous montre que des fois, il ne faut pas interpréter ce passage à notre manière. Mmh. Il faut se laisser guider par le Saint-Esprit. Mmh. C'est pour ça, je pense qu'il y a une bonne corrélation entre 2 Timothée, que tu viens de lire, et puis la fin de ce chapitre. Mmh. Puis ça, c'est du vécu. Si tu le vis, tu comprends plus facilement. C'est bon, c'est clair, si tu ne le vis pas, tu patines, hein, comme on dit. Hein, mais des fois, on le vit. Si tu le vis, tu le comprends plus facilement.
Dans la MacArthur, enfin, les commentaires, là, il dit aussi que le mot interprétation en grec porte la notion de délier.
Oui, oui.
Délier juste, la vérité.
Ouais, c'est un verbe qui veut dire délier. Ouais.
Voilà, délier. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça veut dire disséquer, etc.
Ça te libère la vérité, en fait.
Voilà.
Quelque part. Hein, ouais. C'est symbolique. C'est vrai que c'est un verbe qui est utilisé dans un sens symbolique.
Mais par rapport, justement, qu'il ne faut pas le faire parce que chaque être humain. Parce qu'il parle aussi des faux prophètes qui dénouaient et déliaient leurs propres idées.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Donc voilà, c'est ça aussi.
Oui, ils déliaient, ouais,
c'est exactement ça. Ce que tu disais aussi.
Exactement. Et ça, tu peux le voir dans la vie de tous les jours, souvent. Et on se fait piéger par notre propre intelligence humaine, intellectuelle. On a reçu une instruction, tout ça, on raisonne selon les instructions qu'on a reçues, mais pas selon l'instruction du Seigneur, selon un Esprit Saint. Et c'est après coup que lui, c'est pour ça qu'on voit dans Timothée, c'est marqué qu'il nous enseigne, qu'il nous corrige, qu'il nous reprend quand il voit qu'on part
à côté.
On part à côté, tu comprends ?
On dérive.
Et ça, on dérive. Puis ça, c'est l'expérience que tu fais sur le tard, quoi, dans toutes les choses de notre vie qu'on passe, que ça soit professionnel, que ça soit familial, que ça soit dans tous les domaines.
Ce que tu dis là, parce que je peux juste rebondir là-dessus, ça me fait penser, une fois j'ai entendu une prédication dans un milieu d'église évangélique, hein, qui prenait ce passage où il est dit toutes ces choses que vous aurez fait aux plus petits d'entre moi, d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait.
Exactement. Hein,
parce que il y aura une séparation entre les boucs et les brebis. Et puis certains diront, mais Seigneur, quand est-ce qu'on était trouvé en prison? Quand est-ce qu'on t'a vêtu? Quand est-ce qu'on t'a donné à manger? Et puis en fait, j'ai entendu une prédication là-dessus où c'est un évangile très social, où en fait, le chrétien, comme tu disais, il était appelé à faire acte de générosité envers tout le monde qui venait vers lui. Mais ça, pour moi, c'est une interprétation qui est particulière, hein, qui était propre au pasteur qui était en train de donner ça, mais qui n'était pas inspiré du Saint-Esprit. Parce qu'il avait mis de côté ce que dit Jésus dans ce passage, qui dit, mais chaque fois que vous ferez ces choses à l'un des plus petits parmi vous, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, c'est quand même quelqu'un qui appartient au peuple de Dieu. Ce n'est pas tout un chacun. Et il y a des églises aujourd'hui, vous allez frapper à leur porte. Je ne vais pas donner de nom, hein, mais il y a un mouvement d'église évangélique où c'est comme ça. Peut-être vous pensez, vous savez lequel. Vous allez frapper à la porte, vous êtes soi-disant quelqu'un dans la rue et tout. Ils vont vous donner l'argent systématiquement. Alors pour moi, ça c'est ça.
Il n'a pas parlé d'argent.
Hein?
Il n'a pas parlé d'argent non plus.
En
plus.
Oui, mais voilà, ce mouvement d'église fonctionne comme ça. Hein, si vous allez demander, ils vont vous donner parce qu'ils croient et qu'ils doivent faire ça. Hein? Donc le pasteur en question, pour moi, il faisait une fausse interprétation de cette parole du Seigneur. Voilà. On a besoin d'être éclairé.
Mais, alors justement, oui. La Bible et le christianisme, il y a eu aussi une tendance justement à délier ce que l'Écriture dit clairement par les hommes, notamment les droits de l'homme, qui ont été influencés aussi par, évidemment, l'empreinte du christianisme. Et puis, ça a dérivé sur l'humanisme. Donc, on est exactement dans ce cas de figure. Mm-hmm. Quand tu veux édulcorer la Bible ou, disons, l'interpréter de ta manière, tu arrives à un certain angélisme et humanisme.
C'est tout à fait ça. Ouais. Je me permets encore de rebondir parce que ce verbe délier, en effet, on voit dans l'histoire de l'Église qu'à un moment donné, l'Église a commencé à délier, mais tout et n'importe quoi dans une pensée humaine. Hein. On en est arrivé à avoir un pape. Je veux dire, c'est pas pour pointer le doigt sur l'Église catholique, hein, mais ça montre bien qu'en effet, à un moment donné, il y a eu toute une interprétation de certains textes bibliques pour en arriver à poser une autorité papale, voilà, on est dans l'hérésie. Hein. Pourtant, eux, ils sont certains que leur hiérarchie d'église est selon la pensée de Dieu.
Hein. Moi, j'ai reçu, c'était au mois de décembre, ce verset qui dit « Gardez-vous des faux prophètes ». Et je me suis demandé, mais quel est le lieu que je fréquente où il y a des faux prophètes qui se disent chrétiens ou... Ouais, ça m'a beaucoup troublée. Et puis, peu à peu, ça m'a paru assez clair, mais je trouve très dur de ne pas retourner. Dans cette enfin, ce n'est pas une assemblée, c'est des gens issus de l'église protestante qui offrent à manger, ensuite un temps de méditation, enfin voilà. Et puis... Mais ça ne me semble pas très juste, enfin, ça ne me semble pas inspiré par le Saint-Esprit. Mais pourtant, comme je suis souvent seule, j'y retourne assez fréquemment. Mais je ne suis pas non plus convaincue que je ne dois pas y aller ou que c'est vrai. Est-ce que c'est vraiment des faux prophètes ou pas? Oui, des fois j'ai le sentiment que oui. Puis après, je me dis, mais ils ont quand même beaucoup d'amour.
Alors,
j'hésite un peu. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire de faux prophètes? Il y en a plein partout ailleurs, ça me paraît évident.
Malheureusement, ça ne manque pas. On est dans des temps, en effet, où comme Pierre avertissait l'Église, aujourd'hui, bon, c'est Jésus même qui a averti que dans les derniers temps, prenez garde que personne ne vous séduise. Hein. Aujourd'hui, on est pour moi dans ces temps-là. Donc, on doit être vigilant. Et puis, c'est pour ça que cette deuxième épître de Pierre est intéressante. Parce qu'elle met à la lumière ce que c'est un faux prophète, ce que c'est un faux docteur. Bon, je veux dire, il y a d'autres passages dans la Bible qui nous parlent de ça. Mais ça nous donne quelques règles, peut-être pour comprendre à un moment donné, si en effet, nous sommes en présence de quelqu'un qui est vraiment dans un faux évangile. Maintenant, aucun de nous-mêmes ne détenons la vérité. Parce que Jésus étant la vérité, hein, je dis, voilà, on doit aussi être humble, on peut se tromper soi-même, en pensant bien faire, hein, dans notre interprétation. Mais ça c'est humain, et je pense que le Seigneur n'en tient pas rigueur, parce qu'on a une intelligence qui est limitée, aussi une compréhension qui est limitée des Écritures. Par contre, après, les Écritures nous enseignent ce que c'est qu'un faux docteur et ce que c'est qu'un faux prophète. Et puis par rapport à ça, ben, on doit passer au crible, voir si peut-être ce frère ou cette sœur ou cet enseignant, selon les critères bibliques, est-ce qu'il ne serait pas un faux docteur. Ce n'est pas à nous d'aller lui le dire. Le Seigneur, à la fin, c'est lui qui fera le jugement. Et puis voilà, on doit aussi des fois avoir de la sagesse et de la retenue. Même si on a des fois des choses sur notre cœur qu'on aimerait aller le dire, peut-être des fois on aura la sagesse, peut-être des fois c'est le temps de dire, il ne faut pas non plus, c'est que le Seigneur nous inspire en toutes choses. Mais c'est pour ça que dans la suite là, de l'étude de Pierre, on a quelques critères qui vont nous être donnés, et peut-être ça pourra t'aider.
Mais bon, ce qu'il faut aussi dire, c'est que si on enseignait pas justement de faire attention aux faux prophètes, c'est qu'ils existaient déjà du temps de Paul, du temps de la première église. Hein. C'est pour ça qu'ils nous disent de faire attention. Donc c'était réel il y a 2000 ans avant.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Exactement.
C'est clair. Comme l'Ecclésiaste qui le rappelle. On croit qu'on a inventé des trucs, puis ça existait déjà.
Alors, on pourrait lire simplement encore dans le chapitre 2, les versets 1 à 3. Et puis, après, je vais juste vous parler un petit peu de la structure du second chapitre, et puis on pourra commencer un petit peu à étudier ces versets. Ou si vous avez encore envie de dire quelque chose. Après, des fois, ça vient dans la discussion. Qui c'est qui lirait donc ces trois versets?
Je veux bien lire. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point.
Voilà, merci. Donc, ce deuxième chapitre, il est structuré un petit peu comme ça, mais on aura l'occasion de revenir. Hein. La première partie, c'est celle qu'on vient de lire, ce à quoi il faut s'attendre de la part des faux docteurs. Ensuite, on a quatre sous-chapitres, hein, je vous les lis. Ce à quoi donc ces faux docteurs et ces faux prophètes peuvent s'attendre de la part de Dieu. Ensuite, quelques caractéristiques des faux docteurs. Et puis, un quatrième sous-chapitre, le danger de s'éloigner de la vérité. Donc, la première partie qu'on va voir ce soir encore, ce qu'il faut s'attendre de la part des faux docteurs. Donc, comme on vient de le dire, il y avait déjà des faux prophètes, et on voit qu'il y en avait déjà, en fait, dans l'Église primitive, mais il y en avait déjà, même dans l'Ancien Testament. Hein. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Hein. C'était quelque chose un peu nouveau, quelque part, que Pierre était en train d'annoncer, comme mise en garde, hein, de dire, c'est pas parce que quelqu'un vient vous enseigner la parole que forcément il sera toujours inspiré par le Seigneur. Hein. Et comme je le disais précédemment, Jésus lui-même a mis en garde aussi, Matthieu 24, versets 4 et 5, je vous lis juste comme ça, il n'y a pas besoin d'aller, hein, parce que je voulais citer avant. « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom. » Donc, ils porteront vraiment le nom du Seigneur, ils seront des chrétiens. Jésus nous met en garde que nous ne soyons pas séduits par ces personnes-là. Et le Saint-Esprit, par rapport à l'Église primitive, n'a pas cessé d'avertir les chrétiens au sujet de ces faux enseignants. On va retrouver ça dans la bouche de Paul, de Jude, de Jean, etc. Hein, il n'y a pas qu'un seul passage dans la Bible ou bien une seule fois où Jésus nous met en garde. Les mises en garde, elles sont quand même nombreuses dans les Écritures du Nouveau Testament. Donc, on voit que ces gens-là aiment porter des grands titres. Ils se font appeler docteurs. Hein. Ils aiment quand même bien les premières places. Hein. Mais en réalité, leur enseignement conduisent les croyants qui les écoutent à sortir du véritable corps du Christ et à devenir des mouvements sectaires. Ceci se fait d'une manière pernicieuse et il faut donc être sensible au Saint-Esprit et bien connaître la parole de Dieu pour ne pas se laisser entraîner dans leur hérésie. Hein. Ils semblent être des chrétiens alors qu'en réalité, ils ont renié le Seigneur Jésus-Christ. Et on a besoin de discernement dans les temps que nous vivons afin de ne pas nous laisser séduire par leurs beaux discours. Ils attireront sur eux une ruine soudaine. Dieu les jugera au final, c'est certain. Et celui qui égare les enfants de Dieu, j'aimerais pas être à sa place. Hein, que Dieu nous préserve de ça. Parce que le jugement de Dieu est certain, il est déjà annoncé. Hein. Pierre ne parle pas seulement des faux docteurs, il parle encore aussi des faux prophètes. Si un homme semble tellement charismatique, tellement connecté au Saint-Esprit, capable de prophétiser sur les gens avec une grande précision, on doit quand même être mis en garde aujourd'hui. C'est pas une assurance que cette personne est vraiment conduite par le Saint-Esprit. Et comme je l'ai dit avant, personnellement, je crois au don de prophétie, qui est encore actuel aujourd'hui dans l'Église. Mais ici, l'apôtre nous met en garde contre les faux prophètes présents parmi le peuple de Dieu. Et Pierre dit, plusieurs les suivront. Hein? Donc, pas un petit nombre, plusieurs. Hein? Verset 2, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ne soyons donc pas surpris si on voit malheureusement des fois des chrétiens courir après ces faux docteurs. La Bible nous avait déjà annoncé ces choses à l'avance. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux, parce qu'ils vont enseigner un évangile qui flatte l'ego, un évangile sentimental, doucereux, rempli de grâce et d'amour et qui s'interdit pratiquement tout jugement sur le comportement de l'autre, pour autant que vous admiriez ces grands docteurs hein, ou ces grands prophètes. Mais malheur à vous si vous y remettez en question leur enseignement et leur autorité. Vous retrouverez vite sur le banc des pestiférés. La voix de la vérité sera calomniée car ces faux docteurs vont induire auprès des gens qui les suivent une vie chrétienne tiède alors qu'ils se croient bouillants, une vie tiède car remplie d'orgueil, de compromis avec les saintes écritures, de recherche d'expériences spirituelles exubérantes au lieu de l'écoute de la parole de Dieu, d'une vie sentimentale doucereuse en place d'une vie sanctifiée en Christ. Donc c'est un évangile tordu et qui met peut-être pas frontalement mais parfois dans le fond quand même de côté la sanctification hein. Tout devient grâce, Dieu est amour, Dieu il t'aime comme il est, Dieu il comprend pourquoi malheureusement t'es encore dans le péché, le Seigneur te juge pas, et puis après ça fait des chrétiens qui bon, peut-être j'en parlais aussi un peu dimanche au message, mais ça fait un peu des chrétiens du dimanche. Hein? C'est-à-dire, la personne, elle vient le dimanche au culte, et puis le reste de la semaine, elle oublie un peu le Seigneur. Elle vient s'assurer que Dieu est bien à ses côtés, mais le reste de la semaine, elle l'oublie un petit peu de son quotidien. C'est une forme de vie spirituelle qui met beaucoup l'accent sur l'expérience. Hein, on veut vivre des grandes choses, on veut aller écouter un orateur qui a la triple onction hein, et puis qui nous bénit. Mais on met de côté en fait l'enseignement des Écritures. Hein. Et ça, tu peux le voir des fois quand tu vas écouter un enseignement ou une prédication, ça peut être un critère. Mais est-ce que la personne, elle est plus en train de parler de ses expériences ou de la parole de Dieu ?
Et de Jésus.
Et de Jésus, ouais. Ça c'est vraiment, en effet, si c'est plus centré sur le Christ, ça c'est un critère. Mais si la personne est en train de te vendre un produit quelque part, que viens, suis mon enseignement et tu vivras les expériences tellement extraordinaires, hein, le réveil tellement fort que t'as rien compris, mais moi je l'ai compris et je le vis actuellement. Et si tu écoutes mon enseignement, si tu achètes mes livres,
beaucoup de sous, voilà. Tout ça.
Hein? Ben oui.
Amener, hein? Amen, c'est pas amen, amen, mais amen. Hein?
Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc l'amour de l'argent, ça c'est un signe aussi. Quel est, bon, c'est pas toujours évident, hein? On va pas le voir ça sous le premier regard. Mais quelle est la motivation de la personne? Est-ce que c'est la cupidité? Est-ce que la personne veut se faire un nom? Parce que c'est vrai que quand tu as de l'argent, aujourd'hui dans ce monde, tu te fais un nom. Hein, si tu as un pouvoir financier, tu vas te faire un nom. Tu vas avoir une certaine reconnaissance. Pas une reconnaissance du Seigneur, mais une reconnaissance du monde. Et on voit bien certains grands ministères dans le milieu évangélique qui brasse beaucoup d'argent à un moment donné pour certains hein, on peut se demander mais quelle est la motivation, est-ce que c'est d'avoir un jet privé, on a l'impression que certains quand ils ont enfin le jet privé c'est bon, c'est preuve que leur ministère est béni et puis il y a une collection de voitures de luxe d'appartements, de villas de luxe etc hein. Bon, en Suisse, franchement, on n'a pas tellement ce genre de ministère, mais on peut penser des pays d'Afrique même pauvres. Hein, dans des pays d'Afrique pauvres, comme comme au Nigeria, il y a des ministères qui brassent des millions. C'est incroyable, hein? On pourrait pas s'imaginer ça. C'est pas seulement aux États-Unis.
Parce qu'il y a des méga églises là-bas.
Méga églises.
Dans d'autres pays d'Afrique, moi je suis pas un grand connaisseur de la question, mais j'ai vu des frères africains qui dénonçaient justement ces pseudo grands pasteurs qui ont un grand ministère soi-disant. Ils dénonçaient les erreurs de leur enseignement en fait. Et puis que c'est vrai que si on veut être dans le paraître, à un moment donné, il faut se poser la question si on est vraiment au service, si la personne est au service du Seigneur.
Ça peut être des gens qui sont bien partis, mais qui finissent mal, parce qu'ils sont corrompus, ils ont été corrompus par l'argent, par le sexe, par plein de choses.
Mais on a des exemples. En Suisse, on en a eu. En France, au Canada, le temple solaire, par exemple, c'est secte. C'est aussi l'image propre.
Oui, mais là, je ne sais pas s'ils étaient partis juste là. C'était quand même une secte satanique
à la base. Hein. Oui, non, mais alors, ils ont complètement aveuglé tous ceux qui les suivaient.
Pour
ramasser.
Là, on est dans le
alors, ils ont ramassé. Hein. Ils leur ont parlé du Seigneur aussi. C'était plein de croix, d'habits, cérémonieux.
C'était New Age. Hein,
mais c'était amener les dollars avant tout.
C'est ça. Mais quand tu me dis ça, ça me fait penser. Alors, moi j'étais un enfant, mais Cravenzola.
Pierre, il le connaît.
J'ai pensé exactement à ça.
J'allais au bout de la langue.
Alors, Cravenzola, c'est pas le temple solaire.
Non.
C'est quelqu'un qui a.
Il a bien commencé des âmes à Christ, puis après, ils vendaient même des bouts de temps. Leur temple qu'ils avaient.
Aux États-Unis, il a fait quoi encore? Il est parti là-bas.
Il a eu un château. Bref. Il a fini dans les ruines. Mais c'est un gars qui a apporté, qui s'occupait beaucoup des drogués. C'est un premier 68, il y avait la drogue, il y avait plein de trucs.
Avec un bon cœur.
Tout le temps, on a connu ça. Enfin, on l'a connu. De par les jeunes qu'on a fréquentés aussi.
Ouais, exactement.
Dans le cas de Saint-Sulpice, tout ça.
Les groupes.
Voilà. Mais Cravenzola, tu es d'accord?
Oui.
Au départ, il est parti juste.
Il amenait beaucoup de.
Puis les dérives sont venues après. Les dérives sont
venues,
les voitures américaines, l'argent, les châteaux, c'est venu. Hein.
Tu te fais des disciples, il parlait bien, il avait des résultats. Il y en a qui l'ont suivi, puis après il a commencé à demander du fric, un tas de choses, et puis les gens y donnaient, et puis après tout ce qui se ligue autour.
On le voit aussi là, avec Demas qui a abandonné Paul. Demas m'a abandonné. C'est aussi l'exemple qu'on ne sait pas pourquoi elle l'a abandonné, mais vraisemblablement.
Pour les attraitements, c'est pas
une question. Pour les attraitements, je crois bien.
Ça flatte l'ego, et puis voilà.
C'est ça. C'est ça.
Il faut tous se garder de ça, parce qu'on a vite fait de se mettre en avant. Hein. On oublie l'obéissance à la parole. Et puis très souvent, ces grandes méga, il n'y a pas d'obéissance. Ils n'admettent pas qu'ils sont repris par la parole. Ça, c'est pas nécessaire. Ouais, c'est pas un péché, parce que. Faire ceci, mais Dieu pardonne tout, mon œil te marque. Si tu. Il y a ça, il faut se repentir, il y a beaucoup de choses.
Oui, c'est comme.
On est tous les mêmes, mais quand il nous montre quelque chose, on n'a pas envie. D'obéir, c'est pas facile.
C'est
hein.
Plus dur de l'oreille,
Oui. Ça sort par une oreille, ça rentre par une, ça sort par l'autre, c'est normal, il n'y a rien entre. Hein, c'est pour ça. Notre cerveau humain, il est...
Alors, c'est vrai, ça flatte l'ego. J'avais écrit là, en préparant la rencontre, là, leur royaume n'est pas céleste, mais terrestre. Hein. Ils cherchent à avoir un impact dans cette société. On entend des enseignements où on est appelé à élargir notre sphère d'influence dans la société. Ouais, je veux dire, ok, d'accord, mais on n'est pas tous des présidents, hein, et puis on doit chercher à s'amasser des trésors au ciel, pas des fleurs et des grands discours de reconnaissance des puissants de ce monde. Hein. Ils trafiqueront de vous, puis par rapport à Cravenzola, c'est, parce que moi, on connaît quelques personnes qui ont été pris dans ce mouvement, hein. Mais certaines personnes, elles travaillent pratiquement nuit et jour pour cet homme, hein, à devoir bosser. Et puis, lui, il faisait rentrer les dollars, mais il ne les partageait pas. Hein. Il y a des personnes, elles travaillent.
C'est le propre de toutes les
pratiquement 20 heures par jour. Hein. C'était, non, mais c'était tyrannique ou possible. Hein.
Aux États-Unis, la secte des Davidiens.
Aussi, ah, oui, ouais, ouais.
David Koresh, ouais. Quelque chose comme ça.
Il y en a encore beaucoup comme ça.
Ils avaient des armes, ils se sont suicidés à la fin. Mais au départ c'était un pasteur évangélique, hein, vraiment.
Oui, puissant. Ils prennent des fusils et puis.
Mais d'en arriver là, ouais. Quoi. C'est
ce qui dérive. Hein.
Ces excès, enfin voilà. Quoi.
Alors je m'excuse, mais le temple solaire, c'est tout près de chez nous. Et mon chef, qui était des pompiers de Chéry, je veux juste vous dire ça, des pompiers de Chéry. Mes pauvres amis, ils n'ont pas marqué dans les journaux, ils ont dû tous passer en psychiatrie et puis les entourer, ils ont été perdus. Mmh. Ah, vous savez, vous arrivez à l'hôpital, vous dites non, mais qui c'est électrique, puis quand ils vous trouvent, il est mort là. Mmh. Ils m'ont expliqué, aïe. Alors ça, ils ne s'attendaient pas à ça. Quand vous avez des animaux, des vaches ou des moutons, hein, c'est triste, mais alors des gens. Mmh. Puis il y avait des gens dans la région.
Mmh. Ah ouais. On voit que l'ennemi est derrière, et puis ce qu'il fait, c'est amener la destruction, c'est tout, c'est son but.
C'est pourquoi, comme il est écrit, hein, la voix de la vérité sera calomniée. Mmh. C'est vrai que quand il arrive de ce genre de choses, après d'une autre région, en effet, les gens ont dit « Oh, mais Dieu, alors c'est ça ». Et puis c'est le bon prétexte, hein, quelque part, pour se dédouaner d'une recherche.
Il y a aussi le verset qui dit « Vous les verrez à leurs fruits ». Je crois, mais je n'arrive pas à trouver.
Oui. C'est aussi à Hermas.
Mais bon, ce n'est pas forcément toujours évident. Au départ, non. C'est ce qu'on disait. Hein.
Non.
Ça peut dévier.
Mais voir justement. Alors, on aura plein d'autres critères qui vont nous être donnés là, dans l'enseignement de deux pierres. Mais ici, on peut voir quand même qu'il y a, la question un peu de la reconnaissance. Hein. Qu'est-ce qui les intéresse, c'est l'argent, hein, c'est par cupidité. Hein. Ils vont trafiquer de vous, ils vont vous abuser. Ils vont profiter de votre gentillesse. Hein? Et puis, ils seront gentils avec toi tant que tu ne remettras pas en question leur autorité. Hein? Tant que tu iras dans leur direction, tu seras leur ami. Mais si à un moment donné, tu vas réaliser que peut-être il y a une partie de leur enseignement qui est vraiment pas fondée sur les Écritures, bah, tu vas te retrouver, comme je le disais avant, hein, sur le banc des pestiférés. Leur royaume est terrestre, ils ne recherchent pas le royaume céleste. D'ailleurs, ils vont rarement donner un enseignement sur le royaume de Dieu. Et puis même, à un moment donné, le retour du Seigneur, comme je vous l'avais partagé le dimanche au culte, comme dans le milieu évangélique, hein, où il y avait on voit que maintenant, il y a une majorité dans le milieu évangélique en France où ils s'attendent plus un retour imminent du Seigneur. Mm-hmm. C'est quelque chose qui est... Voilà, on a plein de choses à faire.
J'y crois même plus.
Voilà, et certains y croient même plus. Mm-hmm. Ou ils y croient, mais vraiment un truc...
Pour que ce soit assez loin.
Voilà, tant que je peux faire tout ce que j'ai envie, après il reviendra, quoi. Ouais. Mais Dieu n'est pas pris en dépourvu, ou à dépourvu, je ne sais plus comment on dit. Un dépourvu, non, de cette situation. Au dépourvu, voilà, c'était ni l'un ni l'autre. Alors, merci. Dieu n'est pas pris au dépourvu de cela. Hein. Il est écrit encore ici, donc la fin du verset 3. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voilà. Il y aura quand même, et il faut se le rappeler, un jugement de Dieu. La condamnation sur certains est déjà là. C'est fou, hein? Donc c'est pour ça que ça te fera de la peine à les enseigner puis à les ramener sur le chemin de la vérité, parce que Dieu, mais ça lui appartient, hein? C'est pas nous. Mais Dieu, certains les a déjà jugés. Ils sont sur cette terre, mais Dieu les a déjà jugés.
C'est l'exemple Judas, hein? On pourrait dire ça, avec Judas. Ce qui c'est pas le fils de la perdition. Et puis c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais ouais. Là, comme tu l'expliques là, on peut le comprendre.
Oui, parce qu'il les a déjà avertis par sa parole, ouais, qu'ils étaient sur la mauvaise voie, mais ils ne veulent pas, puisqu'ils ne veulent plus de la parole. Ouais. Ils ne la lisent plus, ils ne l'étudient plus. Mmh. C'est leur parole à eux qui prime. Puis mmh, voilà, c'est compréhensible. Hein. Mmh.
C'est dangereux d'enseigner la parole.
C'est pas évident. Hein. C'est une responsabilité.
C'est, hein. Ce soir, je vois ça. Si on dévie un petit peu, ça peut
être. Il faut se remettre devant Dieu pour partager la parole.
Oui. J'entends pour tous les prédicateurs.
Hein, oui, c'est évangéliste. On a vite fait de.
Bon, on peut des fois dévier, mais il faut aussi avoir l'humilité de reconnaître qu'on a tort. On prend l'exemple de Pierre, mais ça c'était sur une autre passage. Avec Paul, où il y a eu où Paul a repris Pierre, et il a eu évidemment l'humilité de reconnaître qu'il était dans l'erreur. Voilà, ça c'est aussi un exemple. Oui. Donc voilà, il faut. Ouais.
C'est ça. Je recherche un verset dans la Bible qui va dans la direction de ce que dit Anna. Okay. Je vais voir si je le retrouve, il est sur Internet.
Pendant qu'il cherche, moi, il y a quelque chose qui m'a dévié, mais ça, c'est l'ennemi qui m'attaque. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Ouh, je dis, qu'est-ce qu'il va nous dire? Et puis là, il n'a pas épargné non plus l'ancien monde, bien qu'il ait sauvé 8 personnes dans Noé. Mm-hmm. Ben, j'écoutais plus Alexandre ce qu'il disait. Donc, je dis, ben, il faut arrêter de lire à l'avance. Mm-hmm.
Je me réjouis la prochaine fois parce que non.
Mais c'est vrai, Dieu est un feu dévorant, hein. Et puis on doit ce dimanche là je vais parler normalement, je pense, un petit peu sur la sanctification aussi, mais c'est vrai que c'est pas tout simple, hein. On doit avoir la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, des fois, on l'a plus tellement dans nos églises, hein, évangéliques. On n'a plus tellement la crainte de Dieu. On peut penser que peut-être un temps, on l'avait trop. Alors ça, c'est bien possible. Hein. On n'avait plus la notion de l'amour. Il n'y avait plus la notion de la grâce, pratiquement. Hein. Tu faisais quelque chose de travers et le couperet tombait. Alors voilà, il faut un équilibre. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on est justement dans un enseignement, un évangile un peu trop doucereux, hein, très sentimental, comme je disais avant. Tout est amour. Que tu en entends certains chants de louange en anglais qui font des tabacs aujourd'hui, c'est très doucereux, les paroles. Je ne suis pas contre, hein, mais Dieu ne sait pas que l'amour.
Non, c'est aussi l'amour. La justice puis le jugement. Hein. Ça fait partie, mais on ne veut pas le voir, ça. Mm-hmm. On préfère ce qui nous arrange.
J'ai retrouvé là, puis par rapport à ce que disait Anna, l'enseignement, l'importance, la responsabilité. C'est Jacques 3, verset 1. Merci Internet. Merci Google. Mmh.
Pour une fois.
Jacques 3, verset 1. Donc,
jugez plus sévèrement.
C'est juste avant-hier. Hein. Jacques 3, verset 1.
Ça, je vais trouver rapide.
Oh, je ne sais plus où elle est, cette épître. Elle m'est tellement pas sympathique.
Juste avant Pierre.
Merci. Oui. Jacques 3, enfin pas sympathique.
Et puis on finit là.
J'ai un petit peu de peine.
Jacques 3, 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement.
Mm-hmm. Oh. Ah oui.
Oh. Mm. En effet, hein. Bon, ça, il faut pas commencer une session, une nouvelle année de théologie par ce verset, parce que tu vas décourager tes étudiants, mais. mais n'empêche que, en effet, hein, on doit prendre au sérieux la parole de Dieu, parce que ça a une portée éternelle, hein. Ça n'a pas une portée juste pour les 5 minutes qui viennent, hein, mais ça a une portée éternelle.
Enseigner, témoigner, quelle est la différence?
Oh oui,
c'est la même chose.
C'est pas pareil.
Parce que celui qui va témoigner, il enseigne quelqu'un,
oui,
sur la parole de Dieu. Normalement.
Enseigner, c'est l'enseignement.
Quand on a quelqu'un qui est réceptif, hein, bon, puis il y a quelqu'un qui n'est pas réceptif, ben c'est vite fini, hein, c'est vite terminé. Il ne nous laisse même pas commencer à parler, hein, normalement. Mais celui qui est réceptif et qui veut en apprendre, donc si tu continues ton témoignage, tu développes.
C'est comme un certain petit enseignement, en gros. Hein. Mm-hmm. Tu donnes certaines connaissances.
C'est un témoignage.
C'est un témoignage, oui. Mm-hmm. Justement, c'est la question que je posais à Alexandre. Est-ce qu'il y a une différence qu'on peut noter entre les deux, quoi? Ou bien c'est pareil au même?
Je veux dire quelque chose, hein.
Non, je vois simplement que le
retour. Le retour, ouais. Alors, bon, on est tous appelés à être des témoins. Vous serez mes témoins, hein, au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est le Saint-Esprit qui va parler. Des fois, on va dire des choses qui sont à côté de la plaque. On va témoigner faux parce qu'on n'aura même pas la sensibilité peut-être de ce que traverse la personne. Ça peut arriver, hein. On n'est pas parfait dans notre communication. Mais l'enseignement, c'est partagé sur la doctrine de la parole de Dieu, poser les fondements pour les Écritures, pour la doctrine, pour l'Église, pour le salut. Mm-hmm. Hein. Voilà, ça c'est quand même une responsabilité que Dieu ne donne pas à tout le monde.
Donc la pastorale, tu veux dire les pasteurs, je pense. Ouais. C'est eux qui enseignent, hein, c'est les pasteurs.
Voilà, ou ça peut être un docteur aussi, dans un sens biblique, hein, quelqu'un qui n'est pas pasteur, mais qui est enseignant dans une école de théologie, etc. Ouais. Alors voilà, merci d'être venu, merci de votre patience.
Merci.
Et puis à dimanche. On peut finir par la prière quand même, je pense que c'est important. S'il y a une autre personne qui pourrait prier.
Eh bien Seigneur, nous te remercions pour ces enseignements que nous avons reçus ce soir. Et Seigneur, combien c'est merveilleux de voir que tu nous montres que vraiment nous avons à être vigilant de tout ce qui se passe dans le monde, de tout ce qui se passe autour de nous. Et Seigneur, tu nous recentres encore ce soir sur toi, sur ta parole et sur notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons vraiment nous mettre devant toi et voir vraiment que toi, que ton Fils, que Jésus. Et qu'ainsi, Seigneur, tu nous gardes aussi de toute déviance, de toute interprétation de ta parole qui parle d'elle-même par ton Saint-Esprit. Seigneur, merci, tu vas nous raccompagner et tu vas bénir, Seigneur, encore cette fin de semaine. Nous pensons notamment à cette rencontre avec les jeunes d'Alpha Life qui aura lieu ici vendredi soir. Et Seigneur, que tu viennes mettre ta bonne main et que tout soit préparé dans les cœurs, Seigneur, pour recevoir encore une fois cette parole qui est la tienne. Et toutes les questions qu'il y aura aussi par rapport à ces jeunes qui viennent. Seigneur, tu es merveilleux et nous voulons aussi te remettre le culte aussi, que tu bénisses aussi ce culte et que tu, par ton esprit aussi, Seigneur, que tu inspires aussi Alexandre qui va nous apporter le message. Merci Seigneur pour toutes tes bontés. Amen.
Amen. Amen. Amen.